Patricia Martin, vous recevez Sarah Brimeau, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est co-auteure avec Evelyne Pizier du « Droit des femmes » paru aux éditions Dalloz.
Evelyne Pizier, une merveilleuse femme qui a disparu. Bonjour Sarah Brimeau.
Bonjour Patricia Martin.
Il y a un an, le 8 mars 2008, Édouard Philippe disait « Ce qui est fou, c'est que tout existe dans le droit, mais dans les faits, l'égalité n'est pas là ». 2019, même chanson.
2019, même chanson. Effectivement, même chanson. Combat peut-être mis un peu plus sur le devant de la scène par certaines mères célibataires dans le discours des Gilets jaunes. Mais même chanson, effectivement, rien n'a vraiment changé. Et d'ailleurs, aucune réforme fondamentale n'a étayé cette année 2018.
Effectivement, vous parliez des Gilets jaunes. On a vu beaucoup de femmes défiler, des mères célibataires qui sont en intérim, dont le contrat est précaire et dont la vie est difficile. Mais où sont les hommes dans ces cas-là?
Les hommes, eux, bénéficient d'un contrat de travail à temps plein. Les hommes, eux, n'ont pas la garde des enfants, on peut le regretter. Mais le cercle vicieux est là, les mères obtiennent la garde. Du coup, pour se libérer du temps, elles demandent des contrats à mi-temps ou elles n'obtiennent que des contrats à mi-temps. Du coup, elles gagnent moins d'argent et du coup, les inégalités persistent, voire s'accroissent.
On est toujours donc entre colère et fou rire, pour reprendre les propos d'Evelyne Pizier, avec qui vous aviez écrit la première édition de ce livre. En France, pourtant, le droit des femmes est plus abouti quand même. On a plus de chances que certaines voisines.
Oui, évidemment. Chaque matin, on se réveille et on pense à l'hémisphère sud. On pense au pays de l'Est, on pense même à l'Irlande,
qui vient
juste de légaliser l'avortement. Pour ce qui nous concerne, on pouvait en bénéficier depuis 30 ans déjà, un peu plus même.
Alors ce décalage finalement entre la norme juridique et les droits concrets, il est quoi? Il est dans les mentalités?
Il y a un effet mentalité qui est effectivement très important, vous avez raison. Le décalage vient probablement de la différence qui s'instaure dès l'école. Il y a une part très importante des inégalités qui se joue tout petit, des enfants de 3 ans, des enfants de 4 ans, ont déjà la conscience de la différence entre
les filles. C'est le premier levier.
Oui, entre les filles et les garçons.
Il y a des différences entre les filles et les garçons.
Oui, il y a des différences, mais il y a des différences qui s'instaurent très vite dès l'école. Et c'est probablement ce levier-là qu'on devrait chercher à faire jouer et à travailler plutôt que être déjà dans la pénalisation. C'est-à-dire que toutes les dernières grandes avancées normatives ont été des avancées pénalisantes, sanctionnatrices, la sanction des clients des prostituées, les sanctions financières qui sont nécessaires auprès des entreprises qui instaurent ou continuent de faire jouer des discriminations. Mais indépendamment de cette politique sanctionnatrice, il y a toute une dimension préventive sur laquelle on devrait aujourd'hui réfléchir en tant que juriste, que faire à l'école.
Que faire même au sein des familles? Enfin, ça commence aussi dans l'éducation, voir peut-être l'exemple du père, voir comment se comporte le père et puis ce que dit la mère.
Effectivement, comment se comportent les pères? Il n'y a pas que la question du congé paternité. La question du congé paternité, elle est importante, elle existe, mais il se passe des choses bien après les deux premiers ou trois premiers mois d'un nourrisson. L'éducation à l'égalité, elle se fait aussi à la lecture des livres, de la littérature jeunesse. Il y a énormément de dimensions éducatives qui comptent de la part des mères et qui comptent de la part des pères quand les enfants sont malades et que la crèche, si crèche il y a, ne peut pas apprendre les enfants ou la nourrice ne les prend pas, c'est les mères qui restent à la maison.
Qui va garder les enfants? Qui va s'occuper des enfants?
Exactement, qui va garder les enfants et qui va préparer les dîners et va prendre les rendez-vous chez le pédiatre et va penser à l'injection de vitamine D.
Mais que peut le politique là-dedans? D'abord, il n'y a plus de ministère du droit des femmes.
Alors,
est-ce que ça pourrait être utile?
Il n'y a plus de ministère plein et entier du droit des femmes, contrairement à ce qui avait été annoncé par le président de la République. Il n'y a qu'un secrétariat d'État. Évidemment que symboliquement, ça pose un vrai problème. Maintenant, les politiques ont un discours à mener, encore un discours de prévention, ont à se tenir correctement dans les hémicycles et à éviter les propos sexistes ou les propos misogynes. Évidemment, il y a une part d'exemple à donner de leur côté.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette levée de bouclier au sujet du hijab de sport?
Elle me fait tomber de ma chaise. Qu'on ait passé les 3 derniers jours de la semaine à s'intéresser à des pratiques commerciales d'une entreprise privée plutôt qu'à cette femme que l'on ne connaît pas encore mais qui est décédée sous les coups de son mari, puisque une femme décède tous les 3 jours des violences conjugales, je dois dire que ça me laisse absolument et totalement sans voix. Il n'y a-t-il pas d'autres sujets que les sujets de pratiques commerciales d'une entreprise privée?
Et la féminisation des noms de métiers? qui est passé devant l'Académie française.
Là encore, que dire? N'y a-t-il pas des sujets plus importants que de savoir si on doit s'appeler maîtresse de conférence, préfète, sous-préfète ou académicienne? Le jour où on se posera ces questions-là, qu'il ne restera plus que ces questions-là à se poser, on pourra se réjouir. Ce jour-là n'est pas encore arrivé, à mes yeux.
Il y a quand même une libération, alors on va pas voir tout en noir non. Malgré tout, il y a quand même une liberté de parole, disons, avec par exemple le hashtag MeToo.
Bien bon. Sûr.
Ça, c'est quand même...
Bien sûr, la parole s'est libérée. Et les chiffres qui ont été publiés cette semaine par le ministère de la Justice sont assez éloquents sur cette libération de la parole. Les femmes ont porté plainte pour agression sexuelle. On a des chiffres...
Il y a des recours, mais est-ce qu'il y a des sanctions?
Voilà.
C'est ça aussi.
Alors, le souci, il est là. C'est-à-dire que les plaintes ont augmenté. Je crois que les chiffres, c'est 30 ou 40% d'augmentation des plaintes pour agression sexuelle cette année. Simplement, les plaintes sont classées sans suite. Le vrai souci, il est là. C'est-à-dire que la difficulté probatoire pour ces femmes victimes d'agression sexuelle ou de violence sexuelle est une difficulté très importante. Et par ailleurs, les forces de l'ordre, les officiers de police, les gendarmes sont assez peu formés au temps qu'il faut pour écouter une femme qui dépose plainte dans ces cas-là. Encore une fois, la prévention, l'éducation aurait son rôle à jouer. Former ces hommes à entendre la parole des femmes, dans le cadre des commissariats, à prendre le temps, à réauditionner. C'est évidemment un des leviers encore sur lequel on pourrait agir.
Est-ce que les juristes disposent de suffisamment d'argent pour agir?
Alors, c'est pas une histoire d'argent à donner aux juristes, c'est une histoire d'argent à donner aux politiques publiques d'abord et aux associations ensuite. Le temps que l'on consacre à la formation au droit, avec un D majuscule, et au droit au pluriel avec un D minuscule, ce temps à la formation est un temps qui coûte de l'argent. C'est là-dessus, effectivement, que les politiques publiques public pêche en ce moment. On a des dotations qui sont pas suffisamment importantes à l'école et dans les facultés de droit. Il est assez étonnant d'ailleurs de constater qu'on n'a aucun enseignement avant des Master 2, enseignement à l'égalité des droits et du droit en général.
Sarah Brimo, vous êtes une très jeune femme. Il y aura probablement, vous aurez envie de faire une troisième édition à ce livre qui a déjà eu une première donc en 2007 et puis maintenant il y a cette deuxième. Pour la troisième, vous voudriez qu'il soit écrit quoi sur ces pages?
Pour la troisième, c'est mon prisme d'enseignant probablement. Pour la troisième, je voudrais qu'il y ait vraiment des outils normatifs qui soient pensés pour l'éducation à l'égalité dès la toute petite enfance. Tout se joue là, à mon sens. Tout se joue dans les cours de récréation et plus tard. Il est assez étonnant pour une universitaire de constater que mes amphithéâtres aujourd'hui sont dans certaines formations à trois quarts composés de jeunes femmes brillantes, plus brillantes que leurs confrères hommes, que lorsque les femmes rentrent sur le marché du travail, elles ont des taux d'emploi plus grands que les hommes qui sont plus au chômage qu'elles lorsqu'elles rentrent sur le marché du travail. Et puis il y a un moment, le moment de la maternité souvent, où les chiffres s'inversent et où le chômage des femmes devient plus important que le chômage des hommes alors qu'elles étaient plus diplômées et qu'elles sont rentrées plus tôt sur le marché du travail et dans des meilleures conditions. Voilà, ce que je voudrais c'est ça, c'est que l'éducation ait encore son rôle à jouer sur ces questions-là.
Merci Sarah Brimo.
Merci à vous Patricia Martin. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Evelyne Pizier, Le droit des femmes, paru donc aux éditions Dalloz.